Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, des bêtes hors du commun. Un peu de chez nous dans les Costco japonais. Et un point rose qu'on met sur le i du verbe aimer. Bonne écoute.
Des bêtes hors du commun. Un texte de Katia Gagnon et Martin Tremblay, paru le 2 avril 2023 dans la presse. Un chien sauve un homme d'une mort certaine, puis affronte sans hésiter les flammes pour secourir toute une famille. Qu'est-ce qui se cache derrière cette touchante relation entre un animal et ses maîtres? Un récit qu'il faut absolument lire jusqu'au bout. Soya. Le labrador noir au grand cœur. Depuis la pandémie, nos animaux de compagnie sont devenus bien plus que de simples compagnons. Ils sont devenus notre refuge, notre force. Aujourd'hui, plongés au cœur d'histoires où leur impact sur nos vies dépasse l'imagination, découvrez des bêtes au grand cœur dont le dévouement est tout simplement incroyable. Dans la pénombre d'une nuit de Montréal, une scène bouleversante se déroule. Les flammes dévorent une maison menaçant la vie d'une famille de 5 personnes. 3 enfants dorment paisiblement, inconscients du danger qui les guette. C'est alors qu'apparaît Soya, un labrador noir à la tache blanche sur l'oreille, prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime. Soya, 5 ans, a déjà traversé l'épreuve du feu une fois, lorsqu'il a sauvé Michel Tremblay, ancien professeur d'histoire à la retraite et bénévole dans une association caritative à Ottawa. Michel, veuf depuis quelques années, avait adopté Soya pour combler le vide laissé par la disparition de sa femme. Le chien et Michel étaient inséparables. Soya l'accompagnait partout, que ce soit lors de ses promenades quotidiennes au parc ou lors de ses visites à l'association. Ensemble, ils formaient un duo complice et attendrissant. C'est lors d'une soirée d'hiver froide et enneigée que Michel a été victime d'une crise cardiaque, alors qu'il se trouvait seul chez lui avec Soya. Le chien, sentant le danger, avait rapidement alerté les voisins en aboyant avec insistance, permettant aux secours d'intervenir rapidement et de sauver la vie de Michel. Je savais que Soya était spécial, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il sacrifierait sa vie pour sauver une famille. C'est un véritable héros, déclare Michel Tremblay, la voix tremblante d'émotion. Malheureusement, Michel Tremblay n'a pas pu garder Soya en raison de problèmes de santé, et la famille sauvée, touchée par cette histoire, a décidé de l'adopter. Depuis, Soya est devenu un membre à part entière de la famille et a noué des liens étroits avec chacun de ses membres, en particulier les enfants. Les aboiements de Soya résonnent à travers la nuit, alertant la famille sauvée. Le père, Patrick, se précipite hors de son lit, tandis que la mère, Sophie, s'affaire à réveiller les enfants. Les flammes se propagent rapidement, mais grâce à l'intervention de Soya, tous parviennent à quitter la maison à temps. Sauf un, le fils aîné, âgé de 12 ans, est encore prisonnier de l'incendie. Dans un ultime élan de bravoure, Soya se précipite à l'intérieur pour le sauver. Les pompiers arrivent peu de temps après et réussissent à maîtriser l'incendie. Cependant, ils ne peuvent rescaper Soya. Le labrador noir au grand cœur périt dans les flammes, sacrifiant sa vie pour sauver celle du jeune garçon. Le fils aîné, François, raconte comment Soya l'a réveillé alors que les flammes envahissaient la maison. Il a poussé la porte de ma chambre et m'a tiré par la manche de mon pyjama. Je me suis réveillé et j'ai vu la fumée partout. J'étais terrifié, mais Soya ne m'a pas laissé seul. Il m'a guidé vers la sortie en aboyant et en restant près de moi. Malheureusement, alors que François atteignait la sortie, il a trébuché et lâché prise. Soya, sans hésiter, est retournée dans la maison en flammes pour secourir le jeune garçon. Les pompiers sont arrivés peu de temps après. C'est toujours difficile de perdre un animal, mais dans ce cas, c'est encore plus douloureux, car Soya était un véritable héros. Il a donné sa vie pour sauver cette famille, témoigne avec émotion Marc Bellil, un pompier à l'emploi du service de sécurité incendie de la ville de Montréal, qui a sorti le cadavre du chien des décombres. Les membres de la famille sauvée, en larmes, ont exprimé leur gratitude envers Soya et ont partagé leurs souvenirs de leur héros à quatre pattes. Il était plus qu'un chien pour nous. Il faisait partie de notre famille, confie Sophie, la mère. Il avait une connexion spéciale avec chacun d'entre nous, et il nous manquera énormément. L'histoire de Soya et de son courage héroïque a ému la communauté d'Ahuntsic. Des voisins, des amis et des inconnus ont déposé des fleurs, des peluches et des messages de soutien devant la maison incendiée, en hommage à l'animal qui a donné sa vie pour sauver celle des autres. Dans le quartier, le souvenir de Soya restera à jamais gravé dans les mémoires. Vous écoutez Des bêtes hors du commun. Un texte de Katia Gagnon et Martin Tremblay, paru le 2 avril 2023 dans la presse. L'histoire que vous venez de lire a été produite à l'aide du robot ChatGPT que nous n'avons pas corrigé. Bref, elle est entièrement fausse. Voyez les dessous de cette histoire dans la suite de ce reportage. Les dessous d'une histoire incroyable. L'histoire de Soya, le chien héros, vous a tiré une petite larme? Épongez-la. Ni Soya, ni la famille sauvée, ni Michel Tremblay, l'ex-prof d'histoire sauvé d'une crise cardiaque, n'existent dans la vraie vie. Ils ont été créés de toutes pièces par deux robots conversationnels, ChatGPT et Midjourney. Bref, tout ce que vous venez de lire et de voir est faux. Comment avons-nous procédé? L'idée vient du photojournaliste Martin Tremblay. Sur Facebook, il y a quelques semaines, il consulte la publication d'un créateur devenu viral qui vient de produire de zéro de fausses photos d'Écossais de la rue à l'aide du robot Midjourney. Leur réalisme et leur esthétique sont saisissants. « Et si nous faisions le même exercice à Montréal ?» propose Martin. Notre photojournaliste s'initie donc à Midjourney. Le logiciel n'est pas très complexe. Il fonctionne par ligne de commande. On précise, en mots, ce qu'on désire comme image au robot. Par exemple, un portrait de type photographie en studio d'une jeune étudiante. Et Midjourney produit l'image de laquelle on peut partir pour l'améliorer. Soyons bien clairs. Cette jeune étudiante n'existe pas. Son visage n'a pas été repiqué dans une banque d'images, mais créé de toutes pièces par le logiciel. Tout ce qu'on fournit à Midjourney est une ligne de commande. Un exemple? Un jeune homme et une jeune femme de 25 ans dans un bar avec des clients en arrière-plan. Un visage heureux, des vestes de cuir, des cheveux bruns, une femme jolie, éclairée d'en haut, hyper réaliste, de style photographique. Des commandes plus spécialisées peuvent être ajoutées, comme la profondeur de champ. On peut donc, à loisir, allonger les nez, changer la couleur des yeux. On peut également se servir du travail des autres dans Midjourney. Le logiciel fonctionne un peu à la manière d'un réseau social, avec des conversations créées autour de thèmes précis. Martin fait des essais et erreurs. Le logiciel a du mal avec les mains, mais reproduit les yeux avec un réalisme fou. Mais le logiciel est tout à fait capable de sortir d'un studio. Deuxième étape. Martin crée de fausses photos de Montréalais au printemps. Nous sommes soufflés par le résultat. L'arrière-plan fait effectivement très Montréal. Si on y regarde de près, évidemment, on voit des petits détails qui clochent, des plaques d'immatriculation de New York. des photos crédibles. Martin a d'abord montré la série de photos à sa conjointe et ses deux enfants, en leur spécifiant que certaines d'entre elles étaient fabriquées par l'intelligence artificielle. La famille n'y a vu que du feu, identifiant certaines photos comme fausses, mais d'autres comme vraies. Un œil averti ferait-il mieux? Martin a soumis ses photos à un collègue photojournaliste qui compte 20 ans d'expérience, en lui disant qu'il avait fait des photos de rue. Le collègue s'est extasié sur la lumière, a souligné la qualité des photos. Il s'est bien demandé où Martin avait pu dénicher une rue à l'allure aussi printanière, mais n'a jamais pensé qu'elle pourrait être fausse. C'est à ce moment qu'est née l'idée de créer un faux reportage. S'il est désormais si facile de produire des images aussi réalistes, l'intelligence artificielle pourrait-elle imiter un texte journalistique avec autant d'adresse? Et l'union des deux récits, texte et photo, propulserait-elle la crédibilité du produit à un autre niveau? Pour le savoir, Martin et moi avons établi ensemble les paramètres de notre fausse histoire. On voulait y rassembler des thèmes qui font souvent d'un récit une histoire virale. Les animaux, les enfants, une tragédie. N'importe quel journaliste vous dira que vous avez les ingrédients d'une histoire qui fera jaser. Nous optons donc pour l'histoire d'un labrador noir qui sauve une famille d'un incendie. Le chien n'en est pas à son premier acte héroïque. Il a aussi sauvé son précédent maître, foudroyé par une crise cardiaque. En quelques minutes sur Midjourney, Martin produit des photos d'un labrador avec une tache blanche caractéristique sur l'oreille. Soya vient de naître. La photo incendiée de la maison suit rapidement. Puis vient la photo de la petite famille sauvée de l'incendie. Et le texte? C'était à moi de m'y attaquer, en m'appuyant sur la plus récente version de ChatGPT. Notre démarche. Nous avons mené ce projet de faux reportage afin de documenter combien il est facile de créer de toutes pièces une histoire crédible. Le thème choisi est volontairement sans conséquence et nous nous sommes assurés que tous les textes de ce reportage soient liés les uns aux autres afin d'éviter toute confusion. Cet exercice montre que les risques de désinformation en ligne sont très, très réels avec des outils aussi performants, et les conséquences n'ont rien à voir avec un simple poisson d'avril. C'était « Des bêtes hors du commun », un texte de Katia Gagnon et Martin Tremblay, paru le 2 avril 2023 dans la presse. Chez nous, dans les Costco japonais. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 3 avril 2023 dans la presse. Des kayaks de marque Pélican, des spiritueux signés Romeo's Gin, du porc provenant de chez Olimel et du sirop d'érable. Si tous ces produits se trouvent dans un magasin près de chez vous, ils sont aussi offerts, bien loin d'ici, dans les allées des magasins Costco, au Japon. C'est du moins le constat qu'a fait le ministre québécois de l'Agriculture, André Lamontagne, lors d'une mission commerciale au Japon au début du mois de mars. Et à la lumière des discussions qu'il a eues là-bas avec les dirigeants de Costco, d'autres produits d'ici pourraient bien faire leur apparition dans les magasins du détaillant qui compte là-bas un total de 31 entrepôts. M. Lamontagne va même jusqu'à qualifier ce séjour de « voyage payant ». J'ai vu des boissons alcoolisées, des produits d'érable, du porc, des kayaks, raconte le ministre au cours d'une entrevue accordée à la presse à son retour du Japon. À Tokyo, j'ai eu une bonne jasette avec le président du Costco là-bas, Ken Terrio, et on courait presque dans les allées parce qu'il voulait me montrer à gauche et à droite des produits qui viennent de chez nous, raconte-t-il en riant. Cette rencontre-là, c'est nous qui avons couru après. Je voulais voir quel était le mécanisme pour qu'ils accueillent nos entreprises, dit André Lamontagne. Monsieur Terrio est originaire de la Saskatchewan, tandis que le vice-président et directeur des opérations, Howard Tuck, vient de Terre-Neuve. Au départ, ce sont des gens qui ont un préjugé favorable pour les entreprises canadiennes. Ils cherchent des produits qui se distinguent, qui ont des histoires. On a beaucoup de produits au Québec qui ont des histoires derrière eux. Pour Nicolas Duvernois, grand patron de Duvernois Esprit Créatif, l'entreprise derrière le Romeo's Gin, le marché japonais offre une vitrine et ouvre la porte sur le reste de l'Asie. Son gin est absent des étalages dans les Costco du Québec, puisque la vente de spiritueux est interdite en épicerie. Mais son produit est offert en paquet de 2 bouteilles dans ceux du Japon, confirme-t-il au bout du fil. Les Romeo's Gin ont fait leur entrée là-bas quelques mois avant le début de la pandémie. La COVID-19 est venue mettre un frein à l'exportation de ces produits en terre nippone. Mais là, les activités sont relancées. Les Japonais sont des amateurs et des créateurs de spiritueux exceptionnels, souligne-t-il. L'entreprise Dubreton, spécialisée dans l'abattage et la transformation de porc, a déjà fait sa marque au pays du soleil levant avec sa viande hachée biologique. Chez Costco, nous sommes en renégociation pour cet article et pour d'autres articles, toujours dans les produits biologiques, dit Julie Lamontagne, porte-parole de l'entreprise d'abattage et de transformation de porc Dubreton. À la tête de Prana, entreprise connue pour ses céréales, barres tendres et autres biscuits produits avec des ingrédients biologiques, Marie-Josée Richer affirme elle aussi avoir vécu l'expérience de Costco au Japon en 2019. Elle assure qu'elle serait prête à remettre ça, c'est sûr. Qui dirait non à ça? Lance Madame Richer en riant. C'est vraiment une super belle clientèle. On vend dans les Costco en Corée, en Irlande, en Espagne, en France. Il s'agit de rotation. C'est une entente que l'on fait avec eux pour un certain nombre d'unités. Par ailleurs, d'autres produits d'ici pourraient bientôt faire leur place dans les entrepôts de Costco au Japon. Dans le cadre de la mission commerciale, près d'une 20aine d'entreprises et d'organisations agroalimentaires québécoises accompagnaient le ministre. La délégation a notamment participé à Foodex, le plus important salon commercial d'aliments et de boissons d'Asie-Pacifique. L'événement se tenait à Tokyo. Signé Caméline, dont les huiles sont déjà vendues dans des épiceries au Japon, emblème Canneberge et Citadel, coopérative de producteurs de sirop d'érable, comptait parmi les entreprises participantes. Celles-ci n'aspirent pas toutes à faire leur entrée chez Costco, mais à percer le marché japonais. À la suite de ces discussions avec M. Terrio, André Lamontagne a invité le grand patron de Costco et son équipe à rencontrer les entreprises québécoises présentes à Foodex. Ils sont revenus plusieurs fois dans la journée à notre kiosque, se rappelle Martin Lavoie, président-directeur général du groupe Export Agroalimentaire Québec-Canada, qui était également du voyage. Ils sont très ouverts, c'est quelque chose qui ouvre grand la porte à des occasions futures. J'ai vu des opportunités pour 2 de nos entrepreneurs, ajoute M. Lamontagne, tout en refusant pour le moment de révéler leur identité. Je voyais des matchs. Emballé par sa visite, le ministre travaille sur l'organisation d'une autre rencontre avec les dirigeants des Costco japonais. Celle-ci aura vraisemblablement lieu au Québec au cours des prochaines semaines ou des prochains mois pour voir s'il n'y a pas d'autres occasions d'affaires qu'on pourrait générer. Selon le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le marché japonais, des produits québécois en vente dans les Costco du Japon, du porc, des bouteilles de Romeo's Gin, des kayaks Pélican, du sirop d'érable. Nombre d'entrepôts Costco au Japon, 31. D'autres sont déjà en construction. Le Japon est la troisième destination des produits alimentaires du Québec, après les États-Unis et la Chine. C'était « Un peu de chez nous dans les Costco japonais », un texte de Nathaël Morissette paru le 3 avril 2023 dans la presse. Un point rose qu'on met sur le « i » du verbe « aimer ». Un texte de Maxime Penneau-Jobin paru le 3 avril 2023 dans la presse. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un point rose qu'on met sur le « i » du verbe « aimer ». C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleur, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter, au bord des lèvres, l'âme. Cyrano de Bergerac, acte 3, scène 10. Mes parents, assez tôt, nous ont fait aimer les grandes œuvres. Celle qui m'a marqué pour la vie, c'est Cyrano de Bergerac. On y trouvait de tout. La droiture, le courage, l'idéal, l'amour absolu. Mais c'est surtout la beauté des mots que j'y ai trouvés, la beauté des phrases parfaites, ce qu'on appelle parfois le génie de la langue française. Ce serait sic si les beaux mots et les belles phrases de notre langue devenaient plus à la mode que le vocabulaire des émissions américaines. Ceci est une subtile référence à la publicité du gouvernement du Québec, publicité qui a entraîné la rédaction de cette chronique. Ce serait merveilleux si nos élus tentaient de nous faire adopter des mots recherchés plutôt que de parler, à l'Assemblée nationale, de « shaker les colonnes du temple », de « Top Gun » et de « Wet Dream ». La langue française contient tout ce qu'il faut pour qu'elle redevienne ce qu'elle a longtemps été et qu'elle est toujours en dehors du Canada, une langue de prestige. Quand mon père avait un coup de vieux, il s'écriait, en citant Don Diègue, personnage du Cid de Corneille, « Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie !» Il m'a donné le goût de lire la pièce en entier, une pièce où l'on trouve plusieurs autres superbes vers très utiles. Pour accueillir un compliment, un si charmant discours ne se peut trop entendre. Pour dénoncer l'âgisme, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées. La valeur n'attend pas le nombre des années. Pour éviter le mot vieux, ses rides sur son front ont gravé ses exploits. Ils nous disent encore ce qu'il fut autrefois. Pour souligner le retour des équipes au vestiaire. Et le combat cessa faute de combattants. Pour dénoncer le grand qui domine le petit. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La bande dessinée peut, elle aussi, transmettre l'amour des mots. Achille Talon, par exemple, est le roi du vocabulaire. Je le lisais avec bonheur et avec un dictionnaire. Achille Talon n'arrive pas à la maison, mais dans la sérénité douillette du foyer protecteur. Chacune de ces phrases est une découverte. Je me suis réveillé ce matin du sommeil séraphique auquel peuvent seuls prétendre les contribuables déférents. J'ignore d'un pied hautain les allusions malveillantes d'un esprit vulgaire et lourd que mes dons artistiques éclaboussent de mépris. Et en hiver, je vais dégager l'allée avec souplesse, vélocité et m'appelle, etc. au détour d'une phrase hilarante, la question philosophique d'Achille. Mais cette fleur a trépassé. Et oui, que met-on sur la tombe d'une fleur? La beauté de la langue, c'est aussi Chloé Sainte-Marie qui chante Miron. Je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi. C'est Joséphine Bacon qui sait « Faites belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. » C'est Paul-Émile Bordua qui écrit à son amoureuse « Il nous appartient de faire une merveille de notre prochaine rencontre. » C'est Victor Hugo pour qui « L'art, c'est la pensée humaine qui va brisant toute chaîne. Peuple esclave, il te fait libre, peuple libre, il te fait grand. » La beauté de la langue, c'est aussi mon épouse qui me dit alors que je saute dans la voiture pour aller la rejoindre « J'ai hâte que tu sois à portée de bec. » Je ne sais pas quel sera l'impact d'une publicité comme celle du Faucon Pèlerin. Je sais toutefois que la beauté de la langue est le meilleur argument à notre disposition pour la faire aimer. Charles de Gaulle disait que « Tout homme qui écrit et qui écrit bien » sert la France. Écrivons bien, parlons bien, nous servirons le Québec. C'était un point rose qu'on met sur le « i » du verbe « aimer ». Un texte de Maxime Penneau-Jobin paru le 3 avril 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage,